petite note aussi avant de commencer ces paroles que je vais vous donner au cours du serment. Donc, je m'excuse pour ceux qui ont accès à Internet, à la messe en vidéo actuellement. Ici, vous avez remarqué que c'est en trois fichiers, tout simplement parce que la personne qui m'aide électroniquement, qui s'occupe un peu du site, et grâce auquel le site existe, est en vacances actuellement, et donc ne peut pas accéder directement à son ordinateur pour mettre les trois fichiers en un. Donc ça ne va pas durer longtemps. La qualité est toujours là au niveau de la vidéo, au niveau de l'audio, mais c'est en trois fichiers, donc il y a trois parties, il faut aller de trois parties différentes, mais ça sera, reviendra en un seul fichier rapidement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, donc c'est aujourd'hui le 9e dimanche après la Pentecôte. Et les deux textes, l'Évangile selon Saint-Luc et l'Épître aux Corinthiens, reprennent le même sujet. Ce n'est pas des sujets très agréables. Notre Seigneur Jésus-Christ va faire quelque chose qui semble étonnant. L'Évangile nous dit qu'il va pleurer sur la ville de Jérusalem. On montre bien l'humanité de notre Seigneur. Il est Dieu, mais il est aussi homme. Pleinement Dieu, pleinement homme. Il va pleurer sur la ville de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Étant Dieu, il sait qu'il va être trahi par son propre peuple. Il sait qu'il a préparé ce peuple des Juifs pendant des siècles et des siècles, qu'ils ont eu tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont annoncé, préparé l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, l'arrivée du Messie. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, étant Dieu, sait que malgré toutes ces prophéties, malgré le fait que notre Seigneur Jésus-Christ va remplir mot à mot chacune de ces prophéties, malgré le fait qu'il va faire tant de miracles pour convertir son peuple, une grande partie du peuple va refuser de se convertir. Voilà pourquoi il pleure sur la ville. Et les pères de l'Église expliquent qu'il pleure aussi parce que il voit le châtiment terrible qui va arriver. Châtiment, c'est la destruction de la ville de Jérusalem. Exactement le fait que Titus, en 71, va venir assiéger la ville de Jérusalem. Et c'est l'histoire nous dit que c'est certainement le siège le plus sanglant qu'il ait jamais eu dans toute l'histoire du monde. Je vais vous lire, je vais retrouver le texte écrit par un païen, qui est un historien de l'époque, qui s'appelle Joseph. Voilà ce que dit Joseph sur ce siège de Jérusalem. Donc il a duré du 14 avril au 1er juillet de l'an 71. Donc Titus va d'abord tout faire pour essayer de sauver la ville. Il va proposer des tas d'arrangements avec les Juifs qui vont tous les refuser parce qu'ils sont sous la direction des membres du Sanhédrin qui sont tous en train de se battre les uns contre les autres dans les différentes factions. Ils vont refuser. Ils vont refuser tout ça. Titus va même donner des ordres précis pour que même si la ville était prise, le temple soit sauvé. Mais le temple n'a pas été sauvé puisqu'un soldat de Titus a envoyé un brandon, une pièce de bois qui brûlait dans le temple, tout a pris feu, tout a été détruit. Voilà ce que dit Joseph. 200 000 Juifs moururent de faim pendant le siège de Jérusalem du 14 avril au 1er juillet de l'an 71. Près de 116 000 cadavres sortirent par une seule porte de la cité. 1 100 000 hommes furent tués dans la ville et 240 000 dans le reste de la Judée. Une forêt de croix s'élevait dans la campagne et le long des chemins où d'innombrables victimes expiaient le crime du calvaire. On ne saurait évaluer le nombre des esclaves qui furent emmenés à Rome ou vendus aux peuples étrangers. Jésus avait estimé 30 deniers, on donnait 30 juifs pour un denier. Les autres écrivains contemporains rajoutent: dispersé dans le monde entier, ce peuple porte partout le stigmate du théicide. Il n'a pas voulu de la bénédiction l'accablera. Le sang du Seigneur ne cessera de retomber sur lui et sur ses enfants, et en dépit de toutes les causes de destruction, il traversera siècles et peuples sans disparaître et sans se fondre. Cette race ne peut périr, il faut qu'elle dure pour expier son crime jusqu'au jour où ses yeux s'ouvriront pour reconnaître et adorer le Dieu qu'elle a rejeté et crucifié. Videbunt in quem transfixerunt. Ils ont vu, ils ont levé les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Et cela doit nous aider à comprendre. Donc le texte de l'Évangile nous explique que notre Seigneur Jésus-Christ va donc annoncer que les ennemis vont arriver, vont entourer la ville, et vont la détruire totalement. Et notre Seigneur donne la raison. C'est dans le texte de l'Évangile. Parce que les Juifs n'ont pas reconnu le temps où ils ont été visités. Et le Père de l'Église explique très bien que ce n'est pas simplement aux Juifs auxquels notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse. On peut transférer et transposer ce qui est dit des Juifs pour chacun d'entre nous. Puisque le terme Jérusalem, la ville de Jérusalem, historiquement c'est la ville de Palestine, mais Jérusalem représente aussi l'Église et représente aussi notre âme au sens anthropologique, au sens moral. Donc quand notre Seigneur Jésus-Christ pleure sur la ville de Jérusalem à cause du fait qu'ils ont refusé celui qui leur avait été envoyé, à savoir le Messie, ils ont refusé l'arrivée du Messie, notre Seigneur Jésus-Christ parle aussi de tous ceux qui, dans le futur, allaient refuser notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, il ne faut pas tout mettre sur le dos des Juifs. Bien sûr, les Juifs qui ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ vont être châtiés très durement par ce siège de Jérusalem. Mais c'est la même chose pour nous. Et encore, je dirais, pour nous, quand nous refusons notre Seigneur Jésus-Christ, nous refusons celui qui nous a été envoyé, nous commettons un crime, je dirais, qui est encore certainement bien, bien plus grave que le crime des Juifs, parce que nous avons beaucoup plus reçu. Et quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé dans l'Église à partir de 1958, avec l'arrivée du modernisme dans l'Église, c'est un peu la même chose. Là encore, cette église moderne, cette église centrée sur l'homme, cette église qui a refusé notre Seigneur Jésus-Christ, cette église, on peut le dire, humaniste, laïque, va être châtiée, de la même façon que Jérusalem va être châtiée. Et lorsque nous commettons, nous, une faute grave, c'est la même chose. Que Jérusalem représente également notre âme. Et donc si j'introduis le péché mortel dans la ville de Jérusalem, c'est-à-dire que si j'introduis l'opposition à notre Seigneur Jésus-Christ dans ma propre âme qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, je vais provoquer exactement ce que le péché a provoqué à Jérusalem. Donc, Dieu ne pleure pas, notre Seigneur ne pleure pas simplement sur la ville de Jérusalem, il pleure sur tous les catholiques qui vont perdre le bon Dieu par le péché mortel. On dit que les anges gardiens, l'ange gardien, chacun d'entre nous, je l'ai souvent dit, on trouve ça chez les pères de l'Église aussi, ils disent que l'ange gardien pleure toutes les larmes de sa nature, je dirais, s'il pouvait pleurer, au moment du premier péché mortel commis par son protégé. C'est vrai quand on y pense, quand un bébé est baptisé, son âme devient le temple du Saint-Esprit. On baptise un petit bébé, c'est vraiment le Saint-Sacrement à la maison, c'est le paradis à la maison. C'est pour ça que les anciens avaient l'habitude de faire la prière du soir en famille devant le berceau du nouveau-né. Imaginez le premier péché mortel de cet enfant quand il devient un adolescent, quand il prend l'âge de raison. Eh bien, un enfant peut malheureusement commettre un péché mortel peut-être très tôt, on ne sait pas. Imaginez le premier péché mortel d'un enfant ou d'un jeune adolescent qui perd pour la première fois le bon Dieu depuis la grâce de son baptême. L'ange gardien pleure. Comme notre Seigneur Jésus-Christ a pleuré sur la ville de Jérusalem. Eh bien, imaginez, ça doit être la même chose pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit vraiment pleurer à chaque fois qu'il voit une âme qui accepte de faire entrer le démon chez lui, chez elle. Et c'est terrible. Parce qu'ils n'ont pas reconnu, justement, celui, et c'est ce que dit également l'Évangile d'aujourd'hui, s'ils savaient ce qui aurait pu leur apporter la paix. Donc, on refuse notre Seigneur Jésus-Christ, on refuse la seule personne qui est capable de nous apporter la paix. C'est pour ça que le monde moderne est tellement malheureux. Le monde moderne est tellement malheureux parce qu'ils rejettent la seule personne qui peut leur donner la paix véritable. Et rejetant la seule personne qui peut leur donner la paix véritable, eh bien, l'homme moderne va se tourner vers autre chose pour essayer d'avoir une paix qu'il a perdue. Remplacer la paix que Dieu seul peut donner par la paix matérielle. Ils espèrent qu'en accumulant les biens matériels, accumulant l'argent, accumulant dans l'esprit du capitalisme moderne ces biens matériels, en couvrant les âmes de biens matériels, ils vont pouvoir avoir la paix. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Il est l'unique voie, unique vérité, unique vie. Personne ne peut avoir la paix intérieure sans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si on a rejeté notre Seigneur Jésus-Christ, on perd la paix. On perd la paix véritable. Et cette paix véritable, comment peut-elle être récupérée? Elle peut être récupérée par la confession. La confession, justement, nous rend cette paix. De même que le peuple et les juifs qui se sont convertis ont trouvé la paix. Ils ont compris qu'avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, avec le rideau du temple de Jérusalem qui s'est déchiré en deux, eh bien, c'était l'arrivée du Nouveau Testament qu'il fallait chercher la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur insiste dans l'Évangile. Il dit aux juifs, qui ont très mal apprécié d'ailleurs, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, vous avez transformé une maison de prière en une caverne de voleurs. Terrible. Il s'adresse au Sanhédrin, il s'adresse aux marchands du temple, qui pourtant vendaient dans le temple des choses qui allaient être utilisées pour les sacrifices. Donc imaginez ce qui doit se passer quand les marchands du temple vendent des choses qui ne doivent même pas être utilisées pour les sacrifices. Notre Seigneur Jésus-Christ va prendre un fouet de corde, va chasser tout le monde du temple, tous ces marchands du temple qui vendaient des choses utiles pour les sacrifices. Imaginez ce qui va se passer quand dans notre âme, puisque notre âme est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, on fait rentrer des choses qui n'ont rien à voir avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si notre Seigneur Jésus-Christ a chassé les marchands du temple, alors qu'il vendait des choses utiles pour les sacrifices de l'époque, qu'est-ce qui doit se passer dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ quand je fais rentrer dans mon âme, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, je fais rentrer bien plus que des choses profanes, que je fais rentrer l'ennemi même de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le péché mortel. Je pense qu'on ne réalise plus aujourd'hui les dégâts épouvantables que provoque le péché mortel dans une âme, une fois qu'on ouvre la porte. Et rappelez-vous l'avertissement de notre Seigneur. Hein. Quand notre Seigneur Jésus-Christ permet qu'une âme l'abandonne, parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un chef d'esclave, il nous laisse notre liberté. Si je laisse une première fois le démon rentrer dans mon âme, prendre le contrôle de mon âme, le bon Dieu va me donner la grâce pour que je puisse le faire partir. Et même si cette personne... Si le démon quitte mon âme, il va essayer de revenir dans l'âme avec 7 démons pires que lui. Alors en faisant attention, mes bien chers frères. Vous voyez les résultats de la ville de Jérusalem parce qu'ils ont abandonné notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a plus d'un million de morts. Eh bien, pensons à ce qui se passe dans notre âme lorsque dans mon âme, dans ma Jérusalem, dans mon temple, je fais rentrer l'ennemi même de notre Seigneur Jésus-Christ, le démon. Et donc les conséquences seront terribles pour moi. Donc la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de perdre notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, qui disait à son fils, « Beau fils, je préférais vous savoir mort à mes pieds, vous voir mort à mes pieds, que de savoir que vous avez commis un seul péché grave. » Et aujourd'hui, on a un peu trop tendance justement à considérer le péché, bon d'accord, ça se fait pas, d'accord, c'est pas bon, mais on va se confesser puis c'est fini. On ne comprend pas les catastrophes provoquées par le péché mortel. C'est pour ça qu'il faut reprendre l'exemple que donne notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur Jésus-Christ pleure sur la ville de Jérusalem, il pleure sur nos âmes. Il pleure pour toutes ces âmes qui vont refuser la grâce du bon Dieu. Toutes ces âmes qui vont prononcer cette parole terrible, que son sang retombe sur nos têtes et sur la tête de nos enfants. Mais je pense qu'il faut comprendre ces choses-là. Pour être sûr qu'on comprenne bien, l'Église est allée chercher un des textes les plus durs de Saint Paul, l'Épître aux Corinthiens, qui dit exactement la même chose. Saint Paul reprend une partie de l'histoire du peuple juif pendant la traversée du désert, quand ils ont quitté l'Égypte pour aller en terre promise. Vous savez que le bon Dieu les a promenés littéralement dans le désert pendant 40 ans à cause des révoltes constantes des Juifs. Et saint Paul explique les péchés des Juifs à l'époque, l'excès dans le manger, l'excès dans le boire, la fornication, l'idolâtrie. Ça fait un mélange d'étonnant tout ça. Et résultat, dit-il, à cause de ces péchés, de ces péchés de révolte contre la loi du bon Dieu, à cause de tous ces juifs de l'époque qui ont dit « Je ne servirai pas », eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 23 000 morts ce jour-là. Et saint Paul rappelle, et puis après, ils sont révoltés de nouveau, et Dieu a envoyé les petits serpents qui vont encore tuer des milliers de personnes. Eh bien, c'est exactement notre histoire. Nous aussi, on fait la même chose. Quand on offense le bon Dieu, que ce soit par l'excès du boire, l'excès du manger, les péchés contre la pureté, et le pire de tout, c'est les péchés contre la foi, le péché d'idolâtrie, l'adoration des faux dieux, eh bien, il va falloir voir un petit peu, voir un petit peu et comprendre un peu les conséquences de ces, les conséquences de ces, de ces, de ces, de ces choses-là. Et saint Paul rajoute une phrase très importante, parce que beaucoup de gens vont se dire, ah oui, mais ça c'est les autres, moi je suis meilleur que les autres. Et saint Paul rajoute que celui qui est debout, qui prenne garde de ne pas tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si les Juifs ont renié notre Seigneur Jésus-Christ? Si dans l'histoire de l'Église, on voit tant de catholiques qui ont malheureusement renié notre Seigneur Jésus-Christ, je suis parfaitement capable de faire la même chose que les autres. Moi aussi, je peux renier notre Seigneur. Certes, le bon Dieu a donné aux Juifs les grâces nécessaires pour se convertir. Certes, notre Seigneur Jésus-Christ a donné dans l'histoire de l'Église aux différents catholiques qui ont péché les grâces pour se rapprocher du bon Dieu par une bonne confession. Il peut me donner aussi ces grâces, mais attention, se maintenir dans l'humilité. Il ne faut pas croire que le bon Dieu est plein de miséricorde et rattrape tout le monde. Regardez ce qu'est devenue la France aujourd'hui. Vous avez souvent dit une gigantesque poubelle, une poubelle sur le plan moral. Et plus on avance, plus les ennemis de l'Église en France cherchent à avilir, salir, 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 salir. Pourquoi salir tant d'âmes? Pourquoi toutes ces lois pour détruire la famille qui est le fondement même de la civilisation? Parce qu'ils veulent que l'âme soit tellement empêtrée dans le péché mortel qu'elle ne puisse plus s'en sortir. Comme quelqu'un qui est en train de s'enfoncer dans des sables mouvants, et au lieu d'aider cette personne, lui tendre une corde pour le sortir de ces sables mouvants, on lui appuie sur la tête pour qu'il coule encore un peu plus vite. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est là où il faut se rappeler, eh bien, que notre Seigneur Jésus-Christ est plein de miséricorde. Et pour contrebalancer ces annonces de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne sont pas très amusantes, il faut bien entendre, mais il faut voir un petit peu notre Seigneur Jésus-Christ, donc, qui accuse donc ces marchands du temple d'avoir transformé une maison de prière en une caverne de voleurs, ce que nous faisons nous aussi par le péché mortel, eh bien saint Paul rappelle la grande miséricorde du bon Dieu. Dieu est fidèle, dit-il, et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vous. Parce qu'évidemment, quand on entend des textes pareils, on a tendance à se décourager en disant, mais je ne peux plus malin que les autres, moi. Si les autres tombent, j'ai tombé aussi. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera les grâces nécessaires pour que vous puissiez sortir de la tentation et retrouver l'état de grâce. Là, il ne faut pas se décourager, même si les choses ne sont pas faciles, parce que souvent on entend ça de plus en plus, surtout chez les jeunes, parfois aussi chez les moins jeunes, monsieur l'abbé, mais comment voulez-vous qu'on résiste? On est tellement un petit troupeau. Monsieur l'abbé, il n'y a plus qu'un ou 2% de catholiques en France. Comment voulez-vous que nous luttions contre ce rouleau compresseur qu'est la révolution laïque, contre la liberté, l'égalité, la fraternité qui détruit tout en France? Qu'est-ce qu'on fait? Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Voilà la réponse. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. N'oubliez pas que le Vendredi Saint, à l'instant précis où le démon pensait avoir gagné la victoire, au moment où il a fait tuer notre Seigneur Jésus-Christ, à cet instant précis, Dieu écrasait la tête du démon. Et il allait descendre avec son âme, unie à sa divinité, dans les limbes des patriarches pour déjà rouvrir en quelque sorte les portes du paradis. Nous avons contre nous des ennemis terribles, mais notre Seigneur Jésus-Christ est plus fort que les ennemis de sa divinité. Il ne faut jamais oublier ça. Jamais, jamais, jamais se décourager, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans la mesure où nous serons nous-mêmes fidèles. Si nous devenons infidèles et qu'on met notre Seigneur Jésus-Christ dehors par péché mortel, évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas faire un miracle à chaque fois pour nous empêcher de commettre un péché mortel. Le bon Dieu respecte notre libre arbitre. On le voit très bien au pied de sa croix. Il y a deux hommes au pied de sa croix. Il y a un bon larron, un mauvais larron. Il y en a un qui se convertit. Et vraiment, la fumée des cierges, c'est moi qu'on puisse dire. Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et on pourrait se dire, mais et l'autre, pourquoi notre Seigneur n'a pas donné la même grâce à l'autre? Ça, c'est le mystère de la miséricorde du bon Dieu. L'autre continue de blasphémer, et deux vont mourir, l'un va droit au ciel, l'autre va en enfer. Parce que vraisemblablement, le mauvais larron, Gestas, ne s'est pas sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Se maintenir dans l'humilité. Seigneur, par moi-même, je ne suis pas capable de rester en état de grâce. Par moi-même, je ne suis pas capable de maintenir la vertu de charité en mon âme, parce que l'état de grâce, l'habitation en moi de la Sainte Trinité, la vertu de charité, je suis trop faible par moi-même. Donc savoir se mettre à genoux, l'homme devient grand quand il sait se mettre à genoux. Et on se met à genoux dans deux occasions. La première, c'est évidemment pendant notre prière, quand on se met à genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ pour demander toutes les grâces dont nous avons besoin, entre autres arriver à se battre contre ces influences délétères qui nous assaillent de partout. Et le deuxième lieu dans lequel nous devons nous mettre à genoux, c'est au confessionnal. Pardonnez-moi, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Tant que je sais me mettre à genoux, le bon Dieu vient me rechercher. C'est le jour où l'homme n'est plus capable de se mettre à genoux. À ce moment, il va se mettre à imiter le démon qui a dit « Je ne servirai pas ». Lorsque l'homme moderne dit « Je ne servirai pas », le bon Dieu abandonne l'homme. Mais tant que l'homme est capable de se mettre à genoux et de dire « Bénissez-moi, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché », le bon Dieu pardonne. Il pardonne plein de miséricorde aux pécheurs repentants. Donc ne jamais, jamais, jamais se décourager, même dans les moments difficiles, même si nous sommes, et c'est vrai, terriblement isolés. Terriblement isolés. Parfois, les gens me disent, Monsieur l'abbé, si tout ce que vous dites est vrai, mais qui se sauve? Je dirais, ce n'est pas notre problème, c'est le problème du bon Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a eu cette parole. À la fin, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi. Mais le bon Dieu a aussi promis qu'il nous donnerait les grâces. C'est la phrase de saint Paul d'aujourd'hui. Dieu est fidèle. Et même s'il n'y a que quelques personnes qui se sauvent, et avec la grâce du bon Dieu, je ferai partie de ce petit nombre relatif des élus, parce que le bon Dieu n'abandonne jamais celui qui considère sa miséricorde. Voilà pourquoi il nous a donné sa mère. Le bon Dieu nous a donné sa mère, nous a donné notre Sainte Vierge Marie, c'est pas pour rien, c'est justement parce que, avec l'aide de bon Dieu, avec la grâce des grâces de la très Sainte Vierge Marie, que nous obtient la très Sainte Vierge Marie, qui est la médiatrice de toutes les grâces, qui est co-rédemptrice du genre humain, attention, les grâces du bon Dieu passent par elle. Et donc, si nous sommes un peu affolés par l'étendue du désastre, nous passons par la très Sainte Vierge Marie, elle aussi est au pied de la croix. Elle se tient au pied de la croix. Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa. Elle se tient au pied de la croix, tout en pleurs, mais debout au pied de la croix, pour s'immoler avec son fils. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie, tant qu'il y a cette dévotion à notre Sainte Vierge Marie, il y a l'espoir. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me parlait des catastrophes dans sa famille, monsieur l'abbé, mes enfants ont tout abandonné, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai dit à cette mère, elle pleurait, je lui ai dit, mais madame, demandez au moins à votre fils, qui a encore un cœur, oui, monsieur l'abbé, il aime beaucoup sa mère, et bien demandez-lui tous les soirs de dire trois je vous salue Marie, avant de s'endormir. Il ne demandait pas un rosaire, il ne vous l'obtiendrait jamais. Il ne demandait même pas une dizaine de chapelets, vous ne l'obtiendrez pas. Demandez trois Je vous salue Marie. Et ces trois Je vous salue Marie peuvent déjà sauver une âme. Parce que le bon Dieu a promis qu'il ne laisserait pas sans récompense un verre d'eau donné aux pauvres. La Sainte Vierge n'oubliera pas quelqu'un qui est un païen de première, qui a tout envoyé promener, mais qui dit encore ces trois Je vous salue Marie avant de mourir. Alors nous avons la foi avec la grâce du bon Dieu. C'est bien que vous dites vos chapelets tous les jours, que ceux qui m'écoutent sur Internet disent aussi leur chapelet tous les jours. Donc demandons cette protection à notre Sainte Vierge Marie, parce que là où est la reine, là est le roi. Et si la Sainte Vierge est avec nous, alors elle pourra nous aider à aller au ciel. Voilà, ne pas se décourager, continuer la bagarre, même si c'est Quelque chose n'est pas facile parce que le bon Dieu est fidèle dans ses promesses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.